Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un sentier ouvert par Orion aveugle semble devoir se continuer quelque part, bien différé des chemins habituels. Pour l'émission Écrivain du XXe siècle, Claude Simon avait accordé une série d'entretiens à Francine Mallet l'été 1971 sur France Culture. La cohérence du récit par le langage, le point de vue textuel, la cohésion du texte, les jeux de mots qui ne sont pas gratuits. Rendez-vous avec l'auteur de La route des Flandres, de Gulliver, de La corde raide, de L'herbe. Les textes sont lus par Michel Bouquet.
Je ne connais pour ma part d'autres sentiers de la création que ceux ouverts pas à pas, c'est-à-dire mot après mot, par le cheminement même de l'écriture. Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier, il n'y a rien, sauf un magma informe de sensations plus ou moins confuses, de souvenirs plus ou moins précis accumulés, et un vague, très vague projet. C'est seulement en écrivant que quelque chose se produit dans tous les sens du terme. Ce qu'il y a pour moi de fascinant, c'est que ce quelque chose est toujours infiniment plus riche que ce que je me proposais de faire. Il semble donc que la feuille blanche et l'écriture jouent un rôle au moins aussi important que mes intentions. Comme si la lenteur de l'acte matériel d'écrire était nécessaire pour que les images aient le temps de venir s'amasser. Cependant, parfois, celles-ci arrivent plus vite, et je suis obligé de m'interrompre pour les noter rapidement en marge. Ou peut-être ai-je besoin de voir les mots, comme épinglés, présents, et dans l'impossibilité de m'échapper. Pourtant, ce ne sont pas des matériaux existants en soi, comme les pierres d'un mur, une tache de couleur, qui ne renvoient qu'à elles-mêmes, ou du bronze, que l'on peut toucher. Eux, d'une manière ou d'une autre, ils renvoient toujours à des choses. Mais peut-être le rôle créateur qu'ils jouent tient-il justement à ce pluriel. Si aucune goutte de sang n'est jamais tombée de la déchirure d'une page où est décrit le corps d'un personnage, si celle où est raconté un incendie n'a jamais brûlé personne, si le mot « sang » n'est pas du « sang », si le mot « feu » n'est pas « le feu », si la description est impuissante à reproduire les choses et dit toujours d'autres objets que les objets que nous percevons autour de nous, les mots possèdent par contre ce prodigieux pouvoir de rapprocher et de confronter ce qui, sans eux, resterait épars. Parce que ce qui est souvent sans rapport immédiat dans le temps des horloges ou l'espace mesurable peut se trouver rassemblé et ordonné au sein du langage dans une étroite contiguïté. Une épingle, un cortège, une ligne d'autobus, un complot, un clown, un état, un chapitre n'ont que, c'est-à-dire ont, ceci de commun, une tête. L'un après l'autre, les mots éclatent comme autant de chandelles romaines, déployant leurs gerbes dans toutes les directions. Ils sont autant de carrefours où plusieurs routes s'entrecroisent. Et si, plutôt que de vouloir contenir, domestiquer chacune de ces explosions, ou traverser rapidement ces carrefours, en ayant déjà décidé du chemin à suivre, on s'arrête et on examine ce qui apparaît à leur lueur ou dans les perspectives ouvertes, des ensembles insoupçonnés de résonance et d'écho se révèlent. Chaque mot en suscite ou en commande plusieurs autres. Non seulement par la force des images qu'il attire à lui comme un aimant, mais parfois aussi par sa seule morphologie, de simples assonances qui, de même que les nécessités formelles de la syntaxe, du rythme et de la composition se révèlent souvent aussi fécondes que ses multiples significations. C'est ainsi qu'ont été écrits « La route des Flandres », »,« Le Palace », et plus encore « Histoire ». Et plus encore, il faut du temps pour se débarrasser peu à peu des mauvaises habitudes inculquées, les pages que voici, nées du seul désir de bricoler quelque chose à partir de certaines peintures que j'aime. Textes qui, tous, se sont faits d'une façon absolument imprévue de moi au départ, les quelques images initiales s'étant en cours de route précisées et augmentées de toutes celles que l'écriture et les nécessités de construction leur ont adjointes. Et voici que ce sentier ouvert par Orion aveugle me semble maintenant devoir se continuer quelque part, parce qu'il est bien différent du chemin que suit habituellement le romancier et qui, partant d'un commencement, aboutit à une fin. Le mien, il tourne et retourne sur lui-même, comme peut le faire un voyageur égaré dans une forêt, revenant sur ses pas, repartant, trompé ou guidé par la ressemblance de certains lieux, pourtant différents et qu'il croit reconnaître, ou au contraire, les différents aspects du même lieu, son trajet se recoupant fréquemment, repassant par des places déjà traversées. Et il peut même arriver qu'à la fin, on se retrouve au même endroit qu'au commencement. Aussi ne peut-il avoir d'autre terme que l'épuisement du voyageur explorant ce paysage inépuisable. À ce moment, ce sera peut-être fait ce que j'appelle un roman, puisque, comme tous les romans, c'est une fiction mettant en scène des personnages entraînés dans une action. Roman qui, cependant, ne racontera pas l'histoire exemplaire de quelques héros ou héroïnes, mais cette toute autre histoire qu'est l'aventure singulière du narrateur qui ne cesse de chercher, découvrant à tâtons le monde dans et par l'écriture.
Bien, écoutez, dans cette petite préface que Michel Bouquet a lue, que j'ai écrite pour Orion aveugle, j'ai dit à peu près que les mots ont le pouvoir de rapprocher, de confronter ce qui, sans eux, resterait épars. Et je pense que cette confrontation ne se fait pas par hasard, n'est-ce pas ? Notre langage a été très long à se former, il ne s'est pas fait par une série de hasards, mais par une série de choses de processus tout à fait logiques. Ce n'est pas pour rien qu'on dit la tête d'une colonne, la tête d'un complot, la tête d'une ligne d'autobus. Toutes ces choses-là n'ont en commun qu'une tête, mais elles ont ceci en commun. Ce n'est pas par hasard non plus si le mot tête vient du latin testa, qui signifie poterie, n'est-ce pas, creuse, qu'on retrouve dans des tombeaux, comme des crânes, n'est-ce pas. Tout ceci n'est pas l'effet du hasard. Je pense qu'il y a une cohérence du récit et du texte dans et par le langage qui surprend les gens parce que elle n'est pas la cohérence à laquelle ils sont habitués dans le roman traditionnel où, au contraire, c'est une grande incohérence textuelle qui préside à la façon dont sont disposés, les uns après les autres, puisque le langage est toujours linéaire, les différents éléments du récit. Par exemple, dans le roman traditionnel, un monsieur se trouve dans sa chambre, description de la chambre ou description du personnage, puis il descend l'escalier, et puis il entame une conversation avec sa concierge, dialogue, et puis il sort dans la rue, description de la rue, puis il se met à courir pour attraper un autobus, narration de l'action de courir. Tout ceci, au point de vue textuel, est le produit d'une véritable cacophonie, n'est-ce pas ? Aucun lien ne relie ces divers éléments, sinon le lien qui est censé être celui dans lequel il se déroule dans le temps des horloges. Mais au point de vue textuel, c'est parfaitement cacophonique. Au contraire, je pense que il y a alors une cohésion du texte qui peut se faire à l'intérieur de celui-ci par les mots. Si vous m'en demandez quelques exemples, il y en a connus, puisque Ricardou les a relevés dans l'analyse qu'il a fait de la route des Flandres. Par exemple, je parle d'un officier de cavalerie qui a été à Saumur Et comme les officiers de cavalerie, c'est un corps assez raide, assez
conservé,
je parle aussitôt de Saumur. Je fais le jeu de avec Saumur, ce qui n'est pas un jeu de mots gratuit. Ce que je voulais dire, les jeux de mots ne sont pas gratuits. À un autre moment, l'officier est touché par une rafale de mitraillette tirée derrière une haie par un parachutiste allemand. Il sort son sabre, l'occasion c'est l'acier virginal, et aussitôt on passe virginal à la femme qu'il avait épousée, qui n'était pas vierge à ce moment-là, etc. Mon dernier livre, les rapports, les articulations du texte sont faites justement sur tous ces mots qui ont cet étrange pouvoir, comme je l'ai dit, de rapprocher. Par exemple, un fleuve est décrit d'avion, un fleuve tropical dont les méandres serpentent dans la forêt vierge. Un peu plus loin, un petit enfant traîne un jouet sur le trottoir d'une rue, le jouet tombe, la ficelle se détend, et elle décrit des méandres sur le trottoir. Plus loin encore, il y a une vieille dame dans le hall d'un hôtel, elle porte un boa sur ses épaules, elle se baisse, il tombe, et il décrit une courbe en S méandreuse sur la moquette. On voit le pouvoir qu'ont les mots de rapprocher un fleuve dans la forêt vierge, un petit garçon sur un trottoir ou une vieille dame dans un hall d'hôtel. Voilà ce que j'appelle une continuité textuelle par le langage, dans le langage.
Claude Simon n'est pas un auteur comme les autres. Il n'aime pas parler de lui. Il préfère laisser parler ses textes. Au mois de mai, j'ai pu néanmoins lui arracher 4 entretiens d'un quart d'heure qui auraient pu servir d'introduction aux 3 émissions qui vont lui être consacrées. Mais pour les auditeurs qui n'ont pu suivre ces entretiens, je vais essayer de résumer en quelques mots l'homme et l'œuvre. Claude Simon est né en 1913 à Tananarive, au hasard de la carrière d'officier de son père, mort jeune. Il a passé son baccalauréat à 15 ans, après de bonnes études, à Stanislas. Il a fréquenté l'atelier d'André Lhote et s'est consacré à la peinture pendant plus de 10 années. Puis, y a renoncé, malgré un certain succès. Il avait commencé son premier roman dès 1938. Mobilisé en 1939, dans un régiment de dragons, Claude Simon a fait la guerre, participé à la bataille de la Meuse en mai 40. Fait prisonnier, après l'anéantissement de son régiment, il s'est évadé du Stalag 4 en Allemagne à la fin octobre 40 et, revenu à Perpignan d'où sa famille est originaire, a terminé son premier livre, Le Tricheur, qu'il n'a fait paraître qu'en 46. Ce livre, qui n'a rencontré qu'un seul écho favorable, celui de Maurice Nadeau, a d'autre part connu un tel éreintement que Claude Simon n'a plus osé employer l'écriture très originale dont il avait fait preuve avec audace dans ce premier livre. Aussi, les deux qui suivent, Gulliver, Le Sacre du Printemps, sont des romans traditionnels. À cette époque, Claude Simon a fait paraître aussi des souvenirs dans La Corde raide. Claude Simon a toujours été un très gros travailleur. Rien ne lui a jamais été accordé sans effort. Mais à partir du Vent, paru en 1957, grâce à Lindon, le directeur des éditions de Minuit, Claude Simon prend confiance en lui. Son éditeur lui a conseillé et permis d'écrire ce qu'il avait envie d'écrire, comme il avait envie de l'écrire. Vont paraître alors, avec un succès de critique croissant, L'Herbe en 58, La Route des Flandres en 60, Le Palace en 62. Avec la bataille de Pharsale en 69, Orion aveugle en 70, les corps conducteurs en 71, la gloire est venue. Claude Simon est un des auteurs dits du nouveau roman. Comme tous ceux étiquetés ainsi, il pense qu'au XXe siècle, on ne peut écrire un roman comme Madame de Lafayette ou Balzac les écrivaient. Maintenant, à l'étranger, des thèses sont écrites sur lui, on lui demande des tournées de conférences autour du monde. En France, la grande presse emboîte le pas aux critiques spécialisées, dont certains, comme Ricardou par exemple, ont su parfaitement éclairer cet auteur réputé difficile, tant pour sa méthode de composition que pour la structuration de son écriture et l'originalité de ses thèmes. C'est cet ordre que nous allons suivre dans ces trois émissions. Claude Simon, je voudrais aujourd'hui parler d'abord de la composition de l'ensemble de votre œuvre. Je veux dire que votre œuvre forme un ensemble, un tout, comme celle de Balzac. Le plan s'est-il fait peu à peu entre vos différents livres, comme chez l'auteur de la Comédie humaine ?
Non, là je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout balzacien. Un livre est sorti de l'autre, c'est balzacien. On a dit ça parce qu'on retrouve des mêmes personnages. Bon, mais ça suffit pas pour faire des romans balzaciens. Mais un livre est sorti de l'autre, profitant de ce que j'avais découvert en écrivant un livre. Et en somme, tous les livres qu'on fait, on les rate. Puis c'est parce qu'on les a ratés qu'on en écrit un suivant. Sans ça, il n'y aurait plus qu'à se taire.
En somme, la route des Flandres, c'est un fragment de l'herbe que vous avez continué. Ou bien un fragment de la route, non ?
Non, c'est pas un agrandissement ni un fragment, non. C'est toujours un narrateur, là, qui s'appelle Georges dans l'herbe et dans la route des Flandres. Georges dans Histoire, c'est plutôt un cousin du narrateur.
Mais ce Georges est le même.
C'est le même.
Alors il y a un Georges dans l'herbe, Georges dans la route des Flandres, et un Georges dans l'histoire.
Oui, dont on parle peu dans l'histoire.
Oui, mais qui intéresse, ou auquel on s'intéresse particulièrement parce qu'on l'a connu auparavant.
Si vous voulez, c'est un même climat. C'est un même, un même univers, mais non pas un univers balzacien, ce qui me gêne toujours. Même univers scriptural, je préférais comme terme.
Oui, je parlais de Balzac tout simplement parce que on parle toujours de la Comédie humaine où les personnages se retrouvent à travers les différents romans.
Oui.
Et c'est ce que je voulais expliquer.
Oui, mais là il y avait une, je ne suis pas un balzacien, mais là je crois qu'il y avait une volonté, justement, le seul fait d'intituler cet ensemble de livres La Comédie humaine prouve bien qu'il voulait montrer le monde, ou du moins ce qu'il croyait être le monde. Ça n'a pas été du tout mon dessin. Il voulait montrer le monde ou la société, ce qui n'a pas été du tout mon dessin.
Mais comment avez-vous procédé ? Est-ce que c'est tout à fait par hasard que vos livres se suivent, ou qu'est-ce qui se passe en vous ?
Je me posais des questions bien difficiles. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Vous savez, je ne sais jamais, en commençant à écrire un livre, ce que je vais écrire, je crois vous l'avoir déjà dit. J'écris, je commence quelque chose, et puis je regarde ce qui va venir. Alors, au commencement des livres, ce sont des choses, et puis ça ne devient quelque chose qu'au bout d'un moment. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait les mayonnaises. Il y a un moment où ça se prend, on sent que ça se prend, mais quelquefois on reste très longtemps en se demandant même s'il y aura livre, il y a des choses, et puis tout d'un coup on voit que quelque chose va pouvoir se faire, qu'une composition, on entrevoit une composition, et c'est là. Alors lorsque vous me demandez quel dessin j'ai en écrivant mes livres, je crois que je n'ai d'autre dessin qu'écrire, que faire quelque chose.
C'est pas ce que j'aurais voulu savoir. J'aurais voulu savoir à quel point c'est concerté, ce fait que vous retrouvez toujours le même personnage.
C'est pas concerté, c'est ce fameux personnage, je crois que nous avons parlé déjà, ce fameux personnage, entre guillemets, ou cet être bizarre qui est le narrateur, qui n'est pas l'écrivain, qui n'est pas l'auteur, et qui sort de la rencontre de l'auteur et du langage. Et c'est tout, les mêmes personnages se retrouvent, comme je vous l'ai dit, on n'écrit jamais qu'en partant de l'expérience du monde que l'on a pu avoir. Alors, fatalement, je retourne toujours, je tourne un peu en rond, c'est fatal.
Oui, mais il y a des personnages qui ont le même nom.
Oui.
Mais il y a aussi des personnages qui semblent être le même personnage et qui n'ont pas le même nom.
Bah oui.
Soit dans le même livre, soit dans des livres différents.
Fatalement. Fatalement, c'est toujours ce narrateur qui n'est pas moi, mais enfin qui découle un peu de moi.
Oui, il y a, par exemple, lorsque vous avez ce narrateur, il peut être jeune ou vieux. Vous pouvez le présenter à des âges différents.
Oui, mais c'est ce qui s'est passé un peu dans l'histoire, où je me suis toujours demandé, et on a cru que c'était une coquetterie d'écrivain ou un trucage ou une astuce. Je me suis tout le temps demandé, pendant que j'écrivais l'histoire, qui parlait, n'est-ce pas ? Je crois que c'est une question que tous les romanciers un peu conscients se posent. Qui parle ? Je me suis toujours demandé si c'était l'oncle qui s'inventait un neveu pour essayer de se voir de l'extérieur, ou si c'était un neveu qui s'identifiait à l'oncle, etc.
Oui, c'est exactement le problème que je me posais aussi.
C'est ça.
Je pensais à l'histoire, je pensais à ce neveu qui parle de son oncle, et à un autre moment, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais c'est l'oncle qui parle de son neveu.
Oui.
Alors, si vous-même, vous vous demandez qui parle, comment voulez-vous que le lecteur ne se le demande pas ?
Ah, mais il peut se le demander, mais est-ce que c'est absolument indispensable ? C'est une voix qui parle, c'est une voix. Est-ce qu'il est absolument indispensable de l'identifier, de lui mettre un état civil, une fiche d'état civil ?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais les habitudes qu'ont les lecteurs, c'est de se retrouver bien stable avec un personnage qui grandit, qui vieillit. On a inventé ce qu'on a appelé les flashbacks à une époque qui a déjà déconcerté beaucoup.
Oui.
Mais vous, ça n'a rien à voir avec ces méthodes déjà anciennes. Mm-hmm. Ce sont des méthodes beaucoup plus subtiles. Et cette méthode subtile, on la retrouve dans la composition de chacun de vos romans, mais aussi dans la composition de l'ensemble de vos romans.
Ben, l'ensemble, on pourrait dire que c'est, si vous voulez, presque un même livre, avec peu à peu une évolution, n'est-ce pas ? Les livres qui sortent les uns des autres comme des tables gigognes, si vous voulez, mais c'est surtout dans la façon d'écrire, dans la façon de concevoir le texte comme matière, et pas tellement dans l'évolution des personnages qui vieillissent ou qui ont successivement 20, 30 ans ou 40 ans.
Vous dites comme des tables gigognes, est-ce qu'on pourrait pas dire aussi comme ces poupées russes ?
C'est ça. Les poupées russes, non, parce qu'elles vont en diminuant, elles sont toujours de plus en plus petites. Les tables gigognes, si vous me direz, c'est pas une très bonne comparaison, parce qu'aussi elles sont de plus en plus petites. Il faudrait chercher un autre plan de comparaison, j'ai pris cela, mais enfin, pour voir qu'ils se déboîtent les uns des autres.
C'est ça, s'engendrent les uns...
Ils s'engendrent, oui, ils s'engendrent dans la mesure où chaque bouquin est peut-être un échec.
Enfin, vous avez déjà, nous n'allons pas y revenir, parce que vous avez déjà révélé la façon dont vous avez composé, par exemple, la bataille de Pharsal, avec des mouvements divers comme une pièce musicale. Et vous avez expliqué aussi la manière dont vous avez construit la route des Flandres. Vous avez écrit des passages, d'autres passages, puis vous avez donné une couleur à chacun des thèmes traités ou des passages écrits.
Oui.
Puis vous avez fait...
Des personnages, à chacun des personnages.
Oui, une sorte de collage.
De montage,
disons. En mettant au plein milieu, au plein centre du livre, par exemple, je parle de la route des Flandres, la guerre, la mort...
L'anéantissement de l'escadron,
Et le noir.
Oui, c'est ça.
N'est-ce pas ?
C'est ça, oui.
Cela ne m'a pas étonné, car dès le début de vos entretiens, j'avais dit, je crois qu'en voyant pour la première fois vos collages, j'avais ressenti leur parenté avec votre œuvre écrite. Mais ce qui m'a étonné, par contre, c'est qu'en lisant votre dernier roman, Les corps conducteurs, j'ai pas du tout eu l'impression que vous ayez agi de la même façon. J'ai eu l'impression, au contraire, que les nombreux thèmes emmêlés, vous les aviez écrits et mélangés d'un trait, si je peux dire.
Oui, alors là, il faudrait prendre chacun de mes romans, disons, Partir du vent, l'un après l'autre. Effectivement, aucun n'a été composé de la même manière.
Alors, l'impression que j'ai eue pour les corps conducteurs est exacte.
C'est exact, oui, c'est exact.
Est-ce que vous pouvez commencer par ce livre-là, et puis vous me parlerez des autres.
Ben non, il vaudrait mieux commencer par le vent, peut-être.
Bon, eh ben, commençons par le début. Puis, c'est plus logique.
Par le début, c'est plus logique. Le vent, je crois, vous l'avez un petit peu parlé l'autre jour, c'était encore, c'est pourquoi il y a une rupture avec l'herbe, c'était encore une histoire que j'ai imaginée d'abord et que j'ai illustrée, si vous voulez, en l'écrivant d'une façon tout à fait assez
traditionnelle.
Et puis, j'ai eu cette révélation dans le vent que ce qui s'était fait, c'était beaucoup mieux que ce que j'avais voulu faire. Et à partir de l'herbe, je suis simplement parti sur un vague magma de sensations, un très vague projet, n'est-ce pas? Bon, l'herbe, je l'ai écrite comme ça. L'herbe, c'était le projet, c'était un jardin tout illuminé par l'été, par les insectes et une vieille dame qui agonisait là-dedans, dans ce cadre. C'est tout. Voilà l'image que j'avais. Puis je me suis dit, qu'est-ce que...
Avec une odeur de fruits.
Qu'est-ce qu'une odeur de fruits, de décomposition, si vous voulez, et d'été en même temps, ce contraste entre la gloire de la lumière et la mort. Bon. Et alors, il s'est fait en suivant. La route des Flandres, vous venez de le dire, je vous l'ai expliqué l'autre jour, j'ai écrit des petits bouts, ne sachant pas ce que ça donnerait, puis à un moment donné, j'ai vu un montage, j'ai vu une possibilité de composition que j'ai remanié longuement, par tâtonnement, et ça s'est fait comme ça. Le palace, lui alors, qui est fait en cinq chapitres, tout à fait différent et symétrique aussi. Par rapport, le chapitre central des palaces, ça s'intitule l'enterrement de Patrocle, c'est les funérailles de Patrocle, c'est l'enterrement d'un chef révolutionnaire tué, n'est-ce pas? C'est au centre du livre comme l'anéantissement de l'escadron se trouvait au centre de la route des Flandres. Mais là, avant de le commencer, j'ai très nettement vu mes cinq chapitres, mais bon, là, je l'ai écrit aussi en suivant.
Vous l'avez écrit en suivant, mais je vous ferai remarquer qu'il y a, pour le lecteur, une petite difficulté, c'est qu'on ne sait pas au début quand le narrateur parle au présent. On a beaucoup de mal à s'y mettre au début. Mais justement, il parle au présent de l'enterrement.
Il parle... Je ne l'avais pas encore complètement découvert au moment où j'écrivais le palace, mais il parle, et on parle toujours, je vous dis autre chose, je voudrais bien, si c'est là-dessus, on parle au présent de l'écriture. Pour revenir au palace et sa composition, elle est très symétrique aussi, puisque, comme je vous disais, le chapitre central, sont ses funérailles, c'est cet enterrement. Le premier chapitre s'intitule « Inventaire » et le dernier chapitre s'intitule « Le bureau des objets trouvés ». Vous voyez la symétrie, un peu comme dans « La route des Flandres ». Histoire, alors là, c'est une grosse affaire. Là, je ne voyais pas du tout. Là aussi, j'ai écrit des morceaux et ça, je ne suis arrivé à la composition qui était vraiment très, très complexe. C'est presque un fouillis. C'est un bouquin qui fait, je crois, près de 400 pages. C'est assez compliqué à composer.
C'est un fouillis, mais très bien composé.
Très ordonné, mais alors si je me lancer dans la description de la composition d'histoire, nous n'en sortirions plus. Il faudrait que j'aille chercher mes papiers, les différents plans que j'ai faits. C'était fait, refait, reconstruit à n'en pas finir. Quand ça a été terminé, j'ai complètement réécrit les trois premiers chapitres. Et c'est pas étonnant puisque, comme je vous dis, je ne sais pas ce que je vais écrire quand je commence. En écrivant, il se produit quelque chose de différent de l'impulsion première. Par conséquent, arrivé à la fin d'un aussi énorme bouquin que j'ai mis longtemps à écrire, il est normal que le commencement ne colle plus avec la fin. Par conséquent, j'ai dû recommencer les premiers chapitres.
Oui, mais dans Histoire, il y a comme point de départ, si l'on peut dire, des cartes postales.
Point de départ, non, je ne dirais pas que ce sont des points de départ. Non, ce sont des espèces d'illustrations qui arrivent là, qui viennent s'encarter. C'est une intrusion, si vous voulez, du monde par l'entremise de cartes postales, une notion de l'espace, si vous voulez, qui vient là-dedans.
Une notion de l'espace et une notion du temps, non ?
Ils sont inséparables.
Mais partie de ces cartes postales ou de toute autre chose ?
Vous voyez, le départ d'Histoire, c'était très simple en réalité. Prenez les premières pages et vous verrez le départ d'Histoire. J'étais J'avais envie d'écrire, comme toujours, sans trop savoir quoi. J'ai commencé ça à Perpignan, j'étais assis un soir devant ma fenêtre à ma table, et j'ai commencé à écrire, ce que je voyais devant moi, c'est-à-dire qu'il y avait le jardin nocturne, il y avait un arbre dont la lampe éclairait les premières feuilles, et puis ça, peu à peu, ça disparaissait dans l'obscurité, il y avait un lierre au fond où nichaient des oiseaux dont on entend un peu les bruits la nuit, quelques bruits étouffés, et alors... En écrivant cet arbre, j'ai revu une caricature qu'il y avait dans mon livre d'histoire quand j'étais enfant de la famille des Bourbons, une caricature Louis-Philippe parle, enfin, ou républicaine, où les rois et les reines étaient représentés perchés dans les arbres avec des têtes, des couronnes de diamants. Bon, cette image d'oiseaux, des choses comme ça, m'a fait penser aux amis de ma grand-mère qui venaient. Une espèce de vieille perruche comme ça, avec des longues épingles à cabochon, ça y comportait les vieilles dames. En fait, ça marchait comme ça, n'est-ce pas, de cette façon-là, de proche en proche, un peu comme les collages où je pars d'une image, je vois cette image attire d'autres images à elle, voilà. De proche en proche, ça s'est fait, mais alors il a fallu ensuite réorganiser tout ça.
Michel Bouquet va nous lire les premières pages d'Histoire de Claude Simon.
L'une d'elles touchait presque la maison. Et l'été, quand je travaillais tard dans la nuit, assis devant la fenêtre ouverte, je pouvais la voir, ou du moins ses derniers rameaux éclairés par la lampe, avec leurs feuilles, semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond de ténèbres. Les folioles ovales, teintées d'un vert cru irréel par la lumière électrique, remuant par moments comme des aigrettes, comme animées soudain d'un mouvement propre. Et derrière, on pouvait percevoir, se communiquant de proche en proche, une mystérieuse et délicate rumeur invisible se propageant dans l'obscur fouillis des branches. Comme si l'arbre tout entier se réveillait, s'ébrouait, se secouait. Puis tout s'apaisait. Et elles reprenaient leur immobilité. Les premières que frappaient directement les rayons de l'ampoule, se détachant avec précision en avant des rameaux plus lointains, de plus en plus faiblement éclairés, de moins en moins distincts, entrevus, puis seulement devinés, puis complètement invisibles, quoiqu'on pût les sentir nombreux, s'entrecroisant, se succédant, se superposant dans les épaisseurs d'obscurité d'où parvenaient de faibles froissements, de faibles cris d'oiseaux endormis, tressaillant, s'agitant, gémissant dans leur sommeil. Comme si elle se tenait toujours là, mystérieuse et geignarde, quelque part dans la vaste maison délabrée, avec ses pièces maintenant à demi-vides où flottaient non plus les senteurs des eaux de toilette des vieilles dames en visite, mais cette violente odeur de moisie de cave, ou plutôt de caveau, comme si quelque cadavre de quelque bête morte, quelque rat coincé sous une lame de parquet ou derrière une plinthe, n'en finissait plus de pourrir, exhalant ces âcres relents de plâtre effrités de tristesse et de chair momifiée. Comme si ces invisibles frémissements, ces invisibles soupirs, cette invisible palpitation qui peuplait l'obscurité n'étaient pas simplement les bruits d'ailes, de gorges d'oiseaux, mais les plaintives et véhémentes protestations que persistaient à émettre les débiles fantômes bâillonnés par le temps, la mort, mais invincibles, invaincus, continuant de chuchoter, se tenant là, les yeux grands ouverts dans le noir, jacassant autour de grand-mère dans ce seul registre qui leur était maintenant permis, c'est-à-dire au-dessous du silence que quelques éclats, quelques faibles rires, quelques sursauts d'indignation ou de frayeur crevaient parfois. Les imaginant sombres et lugubres, perchés dans le réseau des branches, comme sur cette caricature orléaniste reproduite dans le manuel d'histoire et qui représentait l'arbre généalogique de la famille royale dont les membres sautillaient parmi les branches sous la forme d'oiseaux à tête humaine coiffés de couronnes endiamantées et pourvus de nez, ou plutôt de becs bourboniens et monstrueux. Elle, leurs yeux vides, ronds, perpétuellement larmoyant derrière les voilettes entre les rapides battements de paupières bleuies, ou plutôt noircies, non par l'effort mais par l'âge, semblables à ces membranes plissées glissant sur les pupilles immobiles des reptiles, leurs sombres et luisantes toques de plumes, traversées par ces longues aiguilles aux pointes aiguës, déchirantes comme les becs, les serres des aigles héraldiques, et jusqu'à ces ténébreux bijoux aux ténébreux éclats dont le nom, j'ai, évoquait phonétiquement celui d'un oiseau. Ces rubans, ces colliers de chiens dissimulant leurs couridées, ces rigides titres de noblesse qui, dans mon esprit d'enfant, semblaient inséparables des vieilles chairs jaunies, des voix donnantes, de même que leurs noms de places fortes, de fleurs, de vieilles murailles, barbares, dérisoires, comme si quelque divinité facétieuse et macabre avait condamné les lointains conquérants visigoths aux lourdes épées, aux armures de fer, à se survivre sans fin sous les espèces d'ombres séniles et outragées, appuyées sur des cannes d'ébène et enveloppées de crêpes georgettes. Pouvant entendre dans le silence le pas claudiquant de la vieille bonne traversant la maison vide, frappant, ouvrant la porte du salon, avançant sa tête de méduse, lançant d'une voix brusque, furieuse et comme outragée, elle aussi, les noms aux consonances rêches médiévales. Amalric, Vilum, Guarbia, assorti de titres de général ou de marquise, puis s'effaçant, laissant pénétrer dans leur aura d'éclatantes évocations où chatoyaient les images de barons germaniques, de halbardes, de cités italiennes, de gardenia, l'un ou l'autre de ces informes paquets de fourrures et de chiffons que l'on voit hanter les parcs des stations thermales préoccupés de tisanes, de cataplasmes et de troubles de circulation. Et elle s'asseyait, rigide, dans les fauteuils solennels sous les tableaux aux cadres dorés, tragique, pitoyable, et à nos yeux d'enfants vaguement redoutable en dépit, ou peut-être en raison de leur formidable fragilité, ou de leur ridicule, comme cette tante de Réchac, cette baronne cerise, qui avait autrefois brillé dans les concours hippiques, gardant de sa jeunesse virile, ou peut-être était-ce simplement le fait de son énorme fortune, une liberté de manière qui contrastait avec celle de grand-mère et de ses amis aux trois quarts ruinés, et dont le nom était pour moi la source de multiples associations, affublée d'un maquillage ridicule, dont elle enluminait maladroitement son visage raviné, les vieilles lèvres crevassées, peintes d'un rouge évoquant de façon bouffonne la fraîcheur du mot cerise, qu'on retrouvait aussi dans les couleurs pimpantes agrestes, casaque verte, manche et toque cerise, portées par les jockeys que grand-mère et maman m'avaient montrés à Pau, la première fois où j'avais assisté à une course de chevaux, le mot « toc » lui-même, amenant à mon esprit, s'accordant au maquillage, à la légende d'Amazone, au registre aigu et précieux de sa voix et aux coiffures emplumées qu'elle arborait, le qualificatif de « toqué », qui, paradoxalement, la nimbait pour moi d'un prestige particulier. Le fait de se conduire, c'est-à-dire de pouvoir se conduire et parler d'une façon un peu folle, constituant en quelque sorte par soi-même un privilège non seulement inhérent à sa situation de fortune, mais encore à son âge. Parce que, si dire « toquer » d'une femme encore jeune, comme je l'avais parfois entendu faire par oncle Charles, impliquait mépris ou apitoiement, son accouplement avec le mot « vieille » lui conférait au contraire dans mon esprit une sorte de majesté et de mystère, l'englobant dans cette aura d'obscure puissance qui les entourait toutes. Vaguement fantastique, vaguement incrédible, retirée dans leur royale solitude, cette roide majesté qui contrastait avec leur fragilité physique et ce privilège exclusif qu'elles détenaient, puisqu'on disait d'elles qu'elles allaient bientôt mourir. Tout, jusqu'à ces maquillages maladroits, concourant à leur conférer l'aspect mythique et fabuleux d'êtres à mi-chemin entre l'humain, l'animal et le surnaturel, siégeant comme ces aréopages de créatures, juges ou divinités souterraines qui détiennent la clé d'un monde paré du prestige de l'inaccessible. Assemblées, non pas à vrai dire, de momies, car presque toutes comme grand-mère étaient plutôt grasses, replètes, sinon légèrement obèses, mais d'ombres falotes, flasques, étoffes, chairs, attendant la mort ou peut-être déjà morte. Semblables, avec leur voix dolente, leur visage effondré sous leur moire étincelante et minérale parure, leur toque aux scintillantes aigrettes, leur scintillant collier, leurs doigts bagués, à ces molles pâtisseries qu'elles engloutissaient, leur masque toujours empreint de ce même air d'affliction, de permanente désolation et de permanente hébétude, leurs lèvres bleuâtres où restait accroché un peu de ce sucre pâtissier poudreux, et parfois le furtif passage d'une langue entreaperçue grisâtre, grumeleuse, et aurait-on dit adhésive, comme celle de ces animaux insectivores, voraces, impassibles et précis, happant mouches et fourmis. Sorte d'organe préhensif que je pouvais voir. Agenouillée à côté de grand-mère, elle sur son prie-dieu, les avant-bras appuyés sur l'accoudoir cramoisi, moi sur le tapis, et l'éblouissante chasuble du prêtre, brodée de fils de cuivre, de fleurs, les reflets des cierges jouant, luisant doucement sur ces végétations mystiques, incandescentes, et près de moi, le vieux visage fané, pitoyable, tendu en avant, les yeux clos, la bouche entr'ouverte, laissant dépasser de façon obscène cette langue épaisse aux papilles rugueuses qui, quoiqu'elle ne cessât de tenir ses paupières baissées, se tendait encore pour recevoir comme un bonbon la pastille blanche qu'elle faisait prestement disparaître avec une expression crispée de souffrance et de gourmande béatitude. Quand il se retourna, ouvrit les bras, j'essayai de voir ce qu'il y avait écrit par devant, puis il tourna de nouveau le dos, et de nouveau, je ne pus voir que les roses. Mais ce n'était pas elle qui sentait tellement. Je cherchais. Il y avait aussi de ces grands fleurs à Rome, ou quoi, qui poussent dans l'eau, ces grands cornets enroulés sur eux-mêmes, et vasés blancs, les moins fraîches, aux frangées de jaune, leurs bords se recroquevillant, se fendillant. Amoncelée, exubérante, dardant de espèces de langues jaunes et rectiles comme de la pluche, pollen couleur de safran qui m'était resté sur les doigts lorsque je les avais touchés. Mais ce n'était pas d'elle non plus que venait l'odeur. Cela sentait le poivre. On avait aussi rempli de roses les deux vases de la cheminée du salon, les deux cornes d'abondance décorées, elles-mêmes de fleurs peintes, sortant de la queue de cygne au plumage de porcelaine, voguant sur des vagues de porcelaine, à l'écume ourlée d'or, où je pouvais voir se refléter, aussi, danser, multiplier, les flammes des deux cierges, ne pouvant pas voir les cierges eux-mêmes, sauf celui de droite, parfois, quand il s'éloignait du livre ouvert, voyant alors aussi les pages décorées de majuscules dorées parmi les roses peintes. Puis il revint et, à demi-tourné, il ouvrit les bras, c'est-à-dire sans cesser de garder les coudes collés au corps, les mains seules et les avant-bras dans leurs manches de dentelle empesées s'écartant, faisant penser à ces hommes sandwich que j'avais vus, enfermés entre deux planches sur lesquelles était affichée la réclame d'un restaurant, de sorte que ses bras semblaient lui pousser à hauteur du ventre, courts et rigides, comme ceux de ses marionnettes de guignol, les roses montant au milieu, ou plutôt deux tiges de rosiers grimpant, s'entrecroisant, s'enlaçant, dessinant des huit épineux comme des ronces, me rappelant à la fois où je m'étais écorché tombant dedans, et elle, affolée, racontant qu'un ami de la famille était mort en 3 jours du tétanos pour s'être tout simplement piqué dans son jardin en taillant ses... Taches de sang éparpillées sur la croix brodée parmi les petites feuilles sombres et aiguës, elles aussi qui s'enroulaient au croisement des bandes, formant une sorte de couronne autour du cœur rouge, s'étendant ensuite à droite et à gauche sur la branche horizontale comme sur les supports d'une tonnelle. Comment appelle-t-on celle qui grimpe ? Rose pompon, rostée, grappe rouge. Débordant parfois, sans doute par une coquetterie, une fantaisie du dessinateur, sur le fond mauve de la chasuble moirée, suivant des yeux les rangées de délicats reflets mouvants, ton sur ton, zigzagant, mince vergeture, dessinant sur l'étoffe une immobile succession de vagues étalées vues d'une falaise. En bas, la chasuble se terminait par un galon doré, au-dessous duquel dépassait un peu du surplis la soutane. et plus bas les gros souliers noirs cirés, piétinant sur le tapis les guirlandes de roses. Je vis qu'ils bougeaient, tournaient brusquement leur bout vers moi, mais de nouveau je n'eus pas le temps de lire ce qu'il y avait écrit au centre de la croix par devant trois ou quatre lettres en caractère épineux, aussi griffus, gothiques et entrelacés. Inri, sans doute, ou ce P et ce X entrecroisés, Christos. Et quel mot grec encore ? Dieu symbolisé par un poisson dessiné. Déjà, il tournait le dos un instant. Je vis la petite flamme d'une des bougies inclinée presque à l'horizontale. Sans doute avait-il remué l'air en pivotant sur lui-même. Un tourbillon, puis elle disparut de nouveau derrière l'immobile ruée des vagues violettes. Les taches de sang, les feuilles un instant. J'avais pu voir aussi, ou plutôt entrevoir, le visage de maman sur les oreillers, entre la manche de dentelle et le bord du lit, dans un triangle limité par le bras incliné, le fronton du pied du lit en bois marqueté et le montant à droite, dont le sommet était formé par une sorte de chapeau chinois, c'est-à-dire une petite boule d'ébène surmontant un cône d'acajou, allant s'évasant vers le bas, jusqu'à un anneau d'ébène de nouveau acajou et ébène, continuant à alterner, le bord inférieur de la main ouverte affleurant la petite boule noire, et immédiatement au-dessous se détachant sur la blancheur des oreillers festonnés son visage, comme une lame de couteau vue de face, le nez aussi comme une lame de couteau, avec en haut de chaque côté les deux yeux noirs brillants. Puis tout revint en place, et son visage disparut lui aussi, tandis qu'il se dirigeait de nouveau vers le livre, les onduleuses stries couleur de lilas fanées passant de gauche à droite. Puis je les eus de nouveau juste en face de moi. « Goutte de son sang, disait-il. Quelle légende tombée sur de pâles fleurs au bord du chemin qui devinrent suivant des yeux leur ascension entrelacée, traversant le carrefour, la couronne, le cœur, et plus haut encore, jusqu'à cette pastille, cette lune grise tondue au milieu de son crâne, me demandant tous les combien faut-il qu'ils aillent chez... » Puis je ne la vis plus. Il avait brusquement baissé la tête, comme décapité, absorbé à présent dans une mystérieuse occupation que je ne pouvais pas voir. Peut-être en train de la tenir sanglante entre ses mains, comme cet évêque, ce martyr, qui l'a pourtant parcouru. « Oh, dit-elle, que ce soit 10 ou 50 mètres, quand on est dans cet état, vous savez, il n'y a que le premier pas qui compte. » Et à la place au-dessus de son épaule gauche, je pouvais maintenant le voir, lui, c'est-à-dire cet énorme agrandissement qu'elle avait fait faire, et placé sur le mur parallèle à son lit, à droite, de sorte qu'elle n'avait qu'à tourner légèrement la tête pour le regarder. Sa courte barbe sépia, aux yeux sépia clairs qu'on devinait bleus sous les sourcils touffus, et ses cheveux sépia séparés par la raie médiane, son air hardi, légèrement moqueur, insoucieux, le buste coupé un peu au-dessous des épaules et entouré d'un halo flou. Le fond sépia clair allant pâlissant, dégradé jusqu'au blanc, de sorte qu'il avait l'air de planer suspendu, impondérable et souriant, comme une de ces apparitions entourées d'un halo de lumière devant le semis de petits paniers fleuris qui décoraient le papier peint, semblable à quelque divinité au système pileux, bouclé et soyeux, avec ce sourire hardi, ironique et indéfectiblement optimiste qu'il continuait à conserver par-delà la mort. Son élégant veston sépia, au mince revers de dandy, son élégante barbe châtain clair et son regard de faïence, tel qu'il avait dû lui apparaître 20 ans plus tôt, et tel qu'elle n'avait sans doute jamais cessé de le voir, toujours présent, l'inoubliable image flottant, immatérielle et auréolée de brouillard, tout au long des années qu'avaient duré leurs interminables fiançailles, et où il n'existait déjà pour elle que sous cette forme impalpable et aérienne, comme si elle, les fiançailles, avait en quelque sorte constitué une préfiguration de ce qu'il attendait après l'éblouissante et brève période où elle devait le posséder pour de bon, c'est-à-dire qu'après comme avant, tout ce qu'elle aurait, ce serait cette conviction à la fois ardente et sereine qu'il existait dans un quelque part où elle irait un jour le rejoindre. Un au-delà paradisiaque et vaguement oriental, quelque éden, quelque jardin, à l'inimaginable végétation tout bruissant du cliquetis des palmes balancées comme celles qu'elle pouvait voir ornant les timbres de ses cartes postales qu'il lui envoyait, ne portant le plus souvent au verso dans la partie réservée à la correspondance qu'une simple signature. Au-dessous d'un nom de ville et d'une date, par exemple Colombo 7808 Henri. Et Eurecto, quand elle, la jeune fille qu'elle avait été, avait lu le nom de la ville, la date, la signature, et qu'elle retournait la carte, elle et grand-mère assises l'une en face de l'autre, devant leur minuscule tasse de ce chocolat à l'espagnol qui leur détraquait le froid, si épais, recommandait-elle au domestique, que la petite cuillère d'argent devait rester toute droite, sans s'incliner ni tomber sur le bord lorsqu'on la plantait dedans. Ou encore, l'été, la carte de Colombo, datée d'août, avait dû l'atteindre alors que, comme chaque année, elles étaient déjà parties s'installer à la propriété. Dans le jardin étincelant, vêtue d'un de ces flasques et austères peignoirs à collerette boutonnée jusqu'au cou, aux pans traînant par terre et évasée comme une corolle, de sorte qu'avec sa coiffure à coques et chignons, imitée des estampes japonaises, son visage un peu gras, vierge de hâle, on aurait dit quelques délicates têtes de porcelaine blanche et noire, surmontant un pavillon de phonographe posé à l'envers. Au recto, donc, un port, le palais d'un gouverneur, la salle à manger d'un paquebot, le lac argenté scintillant d'obscurs palmiers aux troncs couchés sur l'eau, une pirogue, avec, comme légende, « Fishing by moonlight on the Colombo Lake ».
Si vous me dites que vous avez mis très longtemps à composer Histoire et que vous mettriez trop longtemps à raconter cette composition, vous me tentez quand même, parce que j'aimerais que vous mettiez quelques minutes à nous donner les difficultés de cette composition.
Comment dire, c'est que c'est déjà loin, vous savez, ça fait 5 ans que j'ai écrit ça. Je sais que
dans les très grandes lignes.
Dans les très grandes lignes.
Parce que, n'est-ce pas, vous nous avez dit tout à l'heure, j'ai été obligée de réécrire les premières pages.
Ah oui, complètement. Bon.
Mais vous me dites maintenant,
oui.
C'est parti des premières pages,
oui.
Où j'étais, oui. En train de regarder.
Oui,
donc vous les avez
réécrites. Il y avait des choses qui s'étiraient trop, il y avait des choses qui étaient... Il y a une question d'équilibre dans une composition. Il y avait des choses trop longues, il y avait d'autres choses qui étaient par contre trop courtes. Il y avait... c'est ça, je crois, la composition recherchait une sorte d'équilibre dans les diverses parties. C'est pourquoi j'étais forcé de réécrire le début.
Oui, pour lui donner un équilibre.
Par exemple, je crois que le début de 5 chapitres, j'en ai fait 2. Vous voyez, par exemple, j'ai très, très, très ramassé ça. La composition, c'est ça, je crois. C'est la recherche d'un équilibre entre les diverses parties du livre.
Et nous en revenons au corps conducteur.
Mais oui, mais si nous devons rester dans cette perspective d'un livre qui sort de l'autre, on peut dire que les corps conducteurs, ou Orion aveugle, qui en était l'embryon, sont sortis en ce qui concerne la composition et en ce qui concerne ces livres, considérés dans leur forme. Un livre, c'est le projet d'une forme, tout de même, n'est-ce pas ? Quand je dis il y a un vague projet en moi lorsque je commence un livre, ben, il y a des images et puis un vague projet de forme. Eh bien, toute la composition et la façon d'écrire des corps conducteurs, c'est sorti de la dernière partie de Farsal, où j'avais vraiment touché du doigt, d'une façon tout à fait consciente, pour la première fois qu'on n'écrit jamais que ce qui se passe au présent de l'écriture, mais où je m'étais aperçu que je m'étais trompé dans pas exactement le montage, mais dans la disposition, étant donné qu'il y avait des paragraphes dans la bataille de Farsal, alors que, et ça je l'ai dit à mon éditeur, quand j'ai vu les épreuves, je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. J'ai fait des paragraphes et au contraire, ça devrait être un peu comme ce qu'on appelle au cinéma un montage rapide. Tout ça doit se suivre absolument sans blanc. Voilà ce qui m'a donné l'idée de la forme des corps conducteurs.
Oui, qui n'ont évidemment aucun blanc et où tout Tout a été écrit d'un jet.
Tout a été écrit d'un jet, non, c'est exact. Tout a été écrit d'un jet. J'ai fait 4 ou 5 colonnes sur une feuille, mais déjà quand c'était assez avancé. Et dans chaque colonne, j'ai mis des petites notes. Chacune des colonnes commandait un des thèmes, soit le bonhomme malade dans la rue, soit l'encuentro des escritores, soit la nuit que passe le type avec une femme, soit encore la colonne dans la jungle. Et j'avais l'impression, en l'écrivant, c'est ce que j'ai dit à ma femme, que c'est en somme comme si j'avais conduit une espèce d'attelage avec plusieurs chevaux, et de temps en temps, il y en a un auquel je lâcherais les rênes et qui prendrait le devant. Les autres continuant toujours à galoper derrière, n'étant jamais absent. Je crois que, je ne sais pas si je l'ai réussi, mais ce que...
On sent que rien n'est absent de votre
C'est ça, que lorsque je parle d'un des thèmes, les autres sont toujours en filigrane derrière.
Sous-jacent, absolument. Et c'est ce qui donne la richesse du livre.
C'est ce que j'ai cherché à faire.
Je me demande si finalement, d'après la description que vous venez de me donner, ou l'explication que vous venez de me donner de toutes les compositions que vous avez faites, de toutes les manières dont vous avez composé, je me demande si maintenant, à force de faire ce travail difficile, vous n'êtes pas arrivé à ce que votre esprit compose lui-même beaucoup plus vite et que votre... La plume n'a plus qu'à écrire.
Non, ça, il ne faut pas dire que la plume n'a plus qu'à écrire parce que ça reste un sacré travail. Non.
Cette émission de Francine Mallet, dont les textes étaient lus par Michel Bouquet, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 août 1971.